Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show. Sport Show.
Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, il est 19h05 sur RMC, le RMC Sport Show jusqu'à 20h, 1h pour retracer les meilleurs moments du week-end et vous allez voir qu'il y en a eu beaucoup. Pour nous accompagner ce soir, la voix du handball sur RMC, Olivier Giraud. Salut Olivier.
Salut Nicolas, salut à tous.
Tu sais, j'ai pensé à toi Olivier ce matin, j'étais dans un excellent débat.
Tu m'inquiètes.
Ouais, non. dans les GG du sport, on a parlé de l'utilisation de la résine dans le handball. N'étaient pas là pour me soutenir parce que moi je défendais la résine dans le handball, alors que Fred Weiss, les basketteurs, là ils veulent nous supprimer notre résine. Je me suis dit, si j'avais eu mon Olivier Giraud avec moi.
C'est un mélange des deux.
Ouais.
C'est un mélange des deux.
Ouais.
Et un peu de tout. Ouais. Pour évoluer.
Je te comprends, c'est vrai. On a un super programme ce soir, Olive, parce que c'était un week-end de championnat d'Europe Omnisport. Dans quelques secondes, on sera à Rome pour retrouver Julien Richard. Il y a des finales à vivre en direct et des médailles françaises qui continuent de tomber. Et on va revenir sur le phénomène David Popovici, nouveau recordman du monde du 100 mètres nage libre à 17 ans seulement. C'est la superstar de la natation. On va recevoir Quentin Rakoto-Malala, le premier médaillé français en natation artistique masculine. Oui, les hommes font de la natation synchronisée et on va découvrir ça avec lui. Il y a de l'escalade parce qu'on a eu beaucoup de médailles à Munich, en Allemagne, dans cette discipline. Manon Ely, médaille de bronze, sera avec nous. Du triathlon aussi. On a vécu un moment fort hier avec un triplé français. Pierre Lecor, la médaille d'argent du triathlon, reviendra sur cette course folle. Et puis en fin d'émission, on sera avec Aurélien Tiersin. Début des championnats d'Europe d'athlé demain. On va se projeter sur la compétition avec Romain Barras, le directeur de la haute performance, une équipe de France emmenée par sa superstar, hein, Kevin Mayer. Je t'ai pas menti, Olive, hein. C'est du costaud ce soir.
Hein. Il y en a du championnat d'Europe.
Hein. Ah, il y en a du championnat d'Europe. Bah, tu sais quoi, on va attaquer tout de suite.
Mais Johan Hendoy-Brouard est devant. Il est devant le Français de 21 ans et il va s'imposer et il va décrocher le titre européen. Victoire de Johan Hendoy-Brouard dans un temps canon, 1 minute 55 secondes, 62 centièmes. Il a explosé son record de France pour aller décrocher le premier titre majeur de sa jeune carrière. C'est extrêmement serré et Marie Wattel va toucher en deuxième position. 25 secondes, 33 centièmes, record personnel, médaille d'argent. Popovici va s'imposer, le Roumain. Allez Maxime, faut s'accrocher maintenant pour le podium. Il y a Milak qui est très très fort aussi. Christophe Milak, le Hongrois, ça coince un petit peu pour Maxime Grousset dans les derniers mètres. Victoire de Popovici. 46 secondes, 86 centièmes, nouveau record du monde, nouveau record du monde du 100 mètres nage libre.
La une du RMC Sport Show.
Julien Richard est avec nous depuis Rome pour ses championnats d'Europe de natation. Salut Julien.
Salut Olivier, salut Nico, salut à toutes.
Bon Julien, il y a plein de choses qui se passent et il y a une finale actuellement, hein, 200 mètres brasse avec un Français qui est en course, Julien.
Oui, Antoine Vicaire, mais alors il n'y aura pas de podium malheureusement. Il aurait fallu qu'il soit au niveau de son record personnel, mais il va prendre certainement la 6e ou 7e place, même 7e place de cette finale du 200 mètres brasse pour le Toulousain qui avait été demi-finaliste à Tokyo aux Jeux Olympiques sur ce 200 mètres brasse. Mais c'était un peu plus compliqué donc cet après-midi. Le chrono d'Antoine Vicaire à 7e cette finale en 2 minutes et 11 secondes et 14 centièmes.
On a des médailles qui comptent de tomber, hein, Julien. Il y en a une qui est toute récente, là, Analia Pigré, qui a été titrée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la natation française parce que c'est un vrai espoir, hein, dans l'optique des Jeux de 2024.
Et la France à bon dos, Nico, puisque après Johan Hendoy-Brouard sur le 200 mètres, oui, je l'ai fait tout à l'heure, je la refais. Sur le 200 mètres d'eau hier, eh bien, c'est une autre espoir de la natation française. C'est sur le dos, là aussi, sur le 50 mètres d'eau. Analia Pigré, 21 ans, la nageuse, la Guyanaise, qui s'entraîne toute l'année à Font-Romeu, dans les Pyrénées, dans les montagnes pyrénéennes, eh bien, qui a décroché donc le titre européen il y a un mois. Pour sa première finale mondiale, elle a été montée sur le podium, médaillée de bronze à Budapest. Et bien pour sa première finale, pour ses premiers championnats d'Europe, elle décroche l'or avec le record de France, 27 secondes et 27 centièmes. Que demander de mieux, tiens, pour Analia Pigré.
Sur le record de France, je fais mon meilleur temps. Trop bien. Je suis vraiment trop bien et trop contente. C'est une belle course, quoi. Mon premier titre, premier championnat d'Europe, premier titre, c'est quelque chose de bien. Et j'espère pouvoir continuer comme ça, quoi. Alors, ça me motive pour la suite, quoi.
Elle est là, la relève française, hein, Olivier, en natation.
Bah, c'est la question que je voulais poser à Julien, record de France. Ouais. titres. Qu'est-ce que ça vaut au niveau mondial? C'est vrai qu'on la découvre pour nous, béotiens de la natation, cette nageuse. Qu'est-ce que ça vaut au niveau mondial?
Ah ben clairement, elle fait partie des meilleures mondiales maintenant sur cette discipline. Alors après, le problème, Olivier, c'est que le 50 mètres d'eau, enfin le problème, c'est que c'est pas olympique.
Exactement.
Donc en fait, là où on va vraiment l'attendre, et ça sera dès demain avec les séries, ce sera sur le 100 mètres d'eau où on espère voir enfin tout son potentiel, parce qu'Annelia Pigré, elle était à Budapest sur le 100 mètres d'eau, mais elle s'est blessée cette saison. Elle a eu une saison très perturbée et elle savait en arrivant à Budapest qu'elle ne ferait rien sur le 100 mètres d'eau, donc ça a été très compliqué à gérer. Elle le disait tout à l'heure à l'issue de son titre et la médaille d'or autour du cou, c'était compliqué, mais elle l'a fait et elle a beaucoup appris en faisant ça. Et on verra ce que ça donne demain sur le 100 mètres d'eau, mais ce sera vraiment un moment important et peut-être on en saura un peu plus sur son niveau, mais c'est un grand talent de la natation française, tout comme l'autre finaliste qui a terminé 6e de ce 50 mètres d'eau, c'est Marie-Ambre Molu. Elle va avoir 17 ans, elle n'a pas encore 17 ans. Elle s'entraîne à l'INSEP. Elle a gagné 5 médailles au championnat d'Europe junior il y a 3 semaines de cela, dont le titre sur le 50 mètres d'eau. Et alors là, aussi, la saison commence à être un peu longue pour Marie-Ambre Molu. C'est un peu compliqué. Elle a du mal à s'approcher de ses meilleurs chronos, mais ça fait partie des grands talents de la natation française sur ce dos. Ça va être dur demain, parce qu'il y a 4 Françaises engagées en série du 100 mètres d'eau. Il n'y en a que 2 qui peuvent accéder aux demi-finales. C'est les règles du championnat d'Europe.
Ah oui.
Et dès le matin, ils vont se tirer la bourre en série. Ça va être intéressant à voir. Il pourrait y avoir déjà des gros chronos.
Et c'est bien cette émulation là dans l'optique des Jeux Olympiques, bien évidemment, en 2024. Avant la finale de Charlotte Bonnet, qui va plonger dans la piscine dans quelques secondes pour sa finale du 200 mètres nage libre. Est-ce qu'il y a eu d'autres résultats ce soir, Julien ?
Oui, il y a eu une très belle performance de Marie Wattel sur le 100 mètres papillon, 56 secondes et 99 centièmes. C'est le meilleur temps des demi-finales pour Marie Wattel, qui est vice-championne d'Europe sur le 50 mètres ici à Rome, qui est vice-championne du monde du 100 mètres papillon. Et 4 grosses ambitions sur ce 100 mètres papillon, c'est son 5e chrono dans sa carrière. Et puis sur 50 mètres d'eau, Johan Endoy-Brouard, le champion d'Europe du 200 mètres d'eau, s'est qualifié 6e temps des demi-finales. C'est pas passé en revanche pour Adrien Salvan sur le 200 mètres nage libre, le meilleur temps pour Popovici d'ailleurs. Tiens,
étonnant. On va en parler.
David Popovici, effectivement, on va reparler. Alors que le 200 mètres nage libre, la finale vient de s'élancer ici à Rome. Alors c'est assez symbolique parce que c'est sous les yeux de la grande star du 200 mètres, Federica Pellegrini, l'italienne, mais qui est retraitée désormais, qui est dans les tribunes, qui est plus dans le bassin. On a une Française qui prend les commandes. Ça, c'est sa tactique de course. C'est ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle aime faire, prendre les commandes. Mais elle sait aussi qu'il y a du répondant, et notamment Steenbergen, la Néerlandaise, ligne de numéro 4 juste à côté, qui a gagné le 100 mètres nage devant Charlotte Bonnet, et qui elle aussi a de la vitesse et part très vite. Le tout, c'est de savoir si ces deux-là qui partent fort vont réussir à résister au retour maintenant de la concurrence. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal parti. On va s'approcher de la mi-course dans cette finale, et Charlotte Bonnet, ligne de numéro 3, est en première position à égalité quasiment, avec 2 centièmes seulement. Il n'y a rien d'écart avec Steenbergen, la Néerlandaise, qui a l'air très forte. Attention à ne pas se faire manger le cerveau, Charlotte, et à bien relancer dans cette troisième longueur. La championne d'Europe 2018 de cette distance du 200 mètres nage libre, Charlotte Bonnet, ligne de numéro 3, donc qui est distancée maintenant. Steenbergen est très forte. Est-ce qu'elle va réussir à tenir et à revenir, Charlotte Bonnet, qui revient de 3 années très compliquées, loin des podiums internationaux? Elle a pris la médaille d'argent ici à Rome sur le 100 mètres, et là elle a un petit peu craqué sur cette troisième longueur. Elle est en 4e ou 5e position maintenant. Il faut tout donner, Charlotte, le titre il s'envole maintenant pour Steenbergen, la Néerlandaise, Freya Andersen, la Britannique, en 2e position. Charlotte Bonnet pour l'instant est distancée. Il n'y aura peut-être pas de médaille, à moins d'un retour très fort dans les derniers 25 mètres. Ce sera compliqué. C'est dur, ce sera compliqué. Il n'y aura pas de médaille. Ce sera une 5e, 6e place. Franchement, c'est un coup dur. Parce qu'elle se sentait bien après les demi-finales. Et on a du mal à comprendre là qu'elle craque. Elle craque complètement.
Elle a explosé.
Charlotte Bonnet. Ouais, elle a bien explosé. Charlotte Bonnet, la victoire donc. Et la surprise, le visage de Marit Steenbergen, la Néerlandaise, qui fait le doublé 102 100 mètres. mètres. Et Charlotte Bonnet qui termine 7e seulement de cette finale du 200 mètres nage libre. 1 minute 58 secondes 77 centièmes. C'est pas bon du tout pour Charlotte Bonnet.
Très grosse déception. On essaiera d'avoir les explications, bien évidemment, de Charlotte. Il est 19h15. On est dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. Bien sûr, grosse page natation, Olive. Parce qu'il y a les championnats d'Europe. Dans quelques instants, on sera avec Quentin Rakotomalala. Pardon.
Dis-le bien, s'il
te plaît. Ouais. Je l'ai posté pourtant avant l'émission.
Il nous le dira.
Il a décroché. J'étais bien tout à l'heure. Là, j'ai ripé. Il a décroché la médaille de bronze de l'épreuve libre en natation artistique. Il va nous faire découvrir un petit peu ce sport. Olive, on voulait bien sûr revenir sur le phénomène de la natation. David Popovici, 17 ans, champion d'Europe après avoir écrasé la concurrence lors des derniers mondiaux à Budapest. Et surtout hier, qui vient pulvériser le record du monde. 46-91, Julien. Bon, c'est un phénomène. On le disait hier avant la course. C'est la superstar de la natation. C'est voilà le gars qui va marcher sur ce sport, on se dit, pendant au moins 10 ans, quoi.
Ouais. 46 secondes et 86 centièmes de frisson vraiment hier dans la piscine du Foro Italico. David Popovici, il aura 18 ans en septembre, hein, et il a fait tomber donc le vieux record du monde de César Cielo, le Brésilien.
Il
l'avait battu. Justement, exactement, dans cette même piscine de Rome, c'était il y a 13 ans, et c'était dans le tourbillon du grand n'importe quoi des combinaisons en polyuréthane. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était lors des mondiaux en 2009, et il y avait eu 46 records du monde battus dans cette piscine du Foro Italico. Si vous êtes pas trop mauvais en maths, vous noterez que David Popovici avait 5 ans à peine à l'époque. Il avait aussi encore des cheveux longs. Et le Roumain, qui est encore junior, hein, a mis donc un sacré coup de rabot à ce record. 5 centièmes de mieux. David Popovici.
I plan to go very fast and I plan to have fun.
J'avais prévu d'aller vite, de prendre du plaisir. La médaille n'est qu'un bonus, un excellent bonus évidemment. Je suis vraiment très heureux d'avoir battu ce record. Maintenant, je fais partie du club des recordman du monde. D'ailleurs, juste après la course, Christophe Milak m'a dit « Bienvenue au club ». C'est bien de fixer de nouvelles limites. Les records sont faits pour être battus. Maintenant, j'espère que quelqu'un viendra battre le mien et qu'ensuite je le battrai à nouveau. C'est ça le sport.
I hope someone's gonna beat mine, then I hope I'm gonna beat his, and this is what sport is all about.
Voilà, plus jeune recordman du monde, hein, de l'histoire sur un 100 mètres. La piscine a vraiment vibré de plaisir. C'était assez incroyable à voir et à vivre. Et il suffisait d'ailleurs d'observer Johan Hendoy-Brouard, le Français, qui venait donc de remporter son titre européen sur le 200 mètres d'eau, mais vraiment quelques minutes avant. Et il s'est précipité, il a couru vers le bassin pour aller voir la course. Écoutez.
C'est énorme, j'ai vu ça de mes propres yeux, ça a pas de valeur. Limite, c'est presque plus beau pour moi que mon titre. Il nage trop bien. Hier, on regardait sa course avec Maxime dans le lit, c'est un extraterrestre. Je me demande ce qu'il fait à l'entraînement pour faire ça, ça doit être monstrueux, je pense. C'est un extraterrestre. Bah oui, il a 17 ans, on en parlait, il peut même pas sortir en boîte de nuit, et il est champion d'Europe, champion du monde, recordman du monde. Ce qu'il a accompli à 17 ans, c'est incroyable. Il manque que les Jeux Olympiques, ça va être un gros concurrent, je pense, aux Jeux.
Ouais, il a presque tout gagné, c'est vrai, il avait frappé un grand coup il y a un mois en devenant le deuxième nageur de l'histoire à réaliser le doublé 100-200 mètres nage libre dans un championnat du monde. Et le monde de la natation découvre, comme le disait Johan Hendoy-Brouard, un extraterrestre, alors dans et hors de l'eau. Alors physiquement déjà, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ce qui est marquant, c'est que c'est pas... Ouais, c'est pas le cliché du sprinter bodybuildé. Il mesure 1m90, on l'annonce à 70 kilos, alors je pense qu'il a un peu plus quand même aujourd'hui, mais en tout cas il est très longiligne. Écoutez ce qu'en pense Denis Auguin, qui est l'ancien entraîneur d'Alain Bernard, ancien recordman du monde du 100 mètres.
C'est assez incroyable dans la construction, dans la façon qu'il a de nager, la légèreté qu'il dégage. Voilà. D'abord, il a un rapport poids-puissance qui est exceptionnel. Quand je dis puissance, c'est pas forcément une force athlétique pure, même si je pense qu'il faut forcément avoir des qualités incroyables athlétiques pour faire ça. Il arrive à transmettre beaucoup de vitesse dans l'eau et c'est ça qui fait vraiment l'écart avec les autres. Puis c'est quelqu'un qui nage, qui s'entraîne. Enfin, moi, j'ai discuté l'année dernière avec son entraîneur. Il s'entraîne. C'est des gens qui font 50 km, 60 km par semaine. Donc, c'est pas le sprinter qui fait 3 allers-retours par jour et qui ne s'emploie pas à l'entraînement.
Voilà, donc ça c'est dans l'eau. Et puis hors de l'eau aussi, le monde découvre ce gamin qui est ultra relax, détaché, souriant, il parle un anglais parfait, avec de la répartie, adepte, écoutez-le, de philosophie. Je peux utiliser ces connaissances pour le sport et dans le jeu mental. Mon entraîneur m'a d'abord parlé de stoïcisme et de philosophie en général. Il y a beaucoup à apprendre de ça et c'est une super connexion, particulièrement le stoïcisme, avec le sport. Je l'utilise dans ma vie de tous les jours, quand je veux me motiver à plonger dans l'eau froide, par exemple. La base du stoïcisme, c'est de vivre une vie heureuse et ça m'aide à vivre une vie heureuse. Voilà, méga star en Roumanie où il s'entraîne à Bucarest avec un jeune coach, lui aussi de 32 ans. Il découvre un peu les contraintes que ça implique aussi. Hein. Il peut plus marcher dans la rue clairement sans être reconnu, mais ça a pas l'air de le sortir de son trajet, celui de performer dans l'eau et de prendre du plaisir dans l'eau. Tout est fun. Le sport, c'est fun. Se mettre dans une fatigue extrême, être à deux doigts de vomir, avoir des lactates partout dans le corps, le sang qui remonte à la tête, c'est fun. Le sacrifice pour moi, c'est juste ce que vous faites et que les autres ne feront pas. Et ça induit de vivre d'une façon différente. Par exemple, en termes de nutrition, de sommeil, de fête. Vous ne pouvez pas faire les choses que d'autres font. Mais ça m'est égal. Peut-être que j'aimerais aller à une fête, mais le lendemain, j'ai un entraînement à 6 ou 7 heures du matin. Mais je me rappelle pourquoi je fais ça. Et je retourne à ma vie d'asset.
Il est agaçant. Il est agaçant parce que c'est le gendre idéal, Olivier. Non, mais franchement, tu l'entends parler.
Le gendre idéal, je sais pas, mais en tout cas, c'est le sportif idéal. Ouais. C'est-à-dire qu'avec, tu sais, c'est les maximes que tu répètes à tous les jeunes sportifs pour qu'ils prennent conscience qu'il faut énormément d'éléments pour devenir un très grand champion. Et en fait, lui, il le comprend tout seul déjà. Tu vois, il fait déjà de la philosophie. Il fait penser un petit peu à Duplantis quand même.
Ouais, c'est vrai, il y a quelque
dans
chose.
Dans cette manière, tu sais, d'aborder, tu sais quoi, là, il est en demi-finale, il est déjà dans les quatre meilleurs recordman en temps du monde en ouais. demi-finale et il dit bon, je pourrais aller plus vite et puis le lendemain il explose tout. Donc quand t'as un gamin qui a autant d'assurance, qui sait ce que c'est la combativité, surtout l'adversité, t'as vu, il recherche ça, il recherche la souffrance. Laisse tomber, on en a pour un bout de temps avec celui-là.
Ça va être un véritable phénomène. Et l'attraction, hein, Julien, des Jeux à Paris pour la discipline, pour la natation. L'homme à battre, bien évidemment. 19h22, le RMC Sport Show. Vas-y.
Je te coupe parce qu'il y a le relais 4x100 mètres nage libre avec les Français. Et on est sur le dernier relais maintenant. L'équipe de France est pas loin du podium. Hein. C'était pas mal pour Maxime Grousset, Guillaume Guth, Charles Rioux et maintenant Adrien Salvan qui était tout à l'heure en demi-finale du 200 mètres nage libre. Parce qu'il a pu récupérer de ses efforts. On est loin de la tête de course. Il n'y aura pas de titre, mais peut-être une médaille hein, pour cette équipe de France. Je vous parlerai d'ailleurs du premier relais de Maxime Grousset qui est allé plus vite qu'en finale hier du 100 mètres nage libre. La victoire pour l'Italie, la deuxième place pour la Hongrie, troisième place pour la Grande-Bretagne. Malheureusement, les Français au pied du podium. Quatrième, ça ne doit pas se jouer à grand-chose, mais les Français ne montent pas sur la boîte du 4x100 mètres nage libre ici à Rome.
Ouais, dommage. Tu voulais revenir sur le premier relais rapidement, ouais. Julien, de Maxime Grousset.
Très rapidement, son chrono, 47 secondes, 69 centimes. Donc c'est plus rapide que ce qu'il a nagé hier en finale.
Ah ouais, dommage.
Alors d'un dixième, mais ça ne suffisait pas pour monter sur la boîte. Mais bon, voilà. C'est à nous, on se dit qu'il y a peut-être un truc à faire.
En tout cas, franchement, c'est prometteur dans l'optique des, des jeux. Alors faut quand même nuancer parce que certains pays ne sont pas là. Hein,
pas de Russes.
Les Anglais disputaient les Jeux du Commonwealth il y a encore un mois, donc c'était clairement leur objectif. Donc là, ceux qui sont présents ne sont pas à leur pic de forme. Mais malgré tout, on arrive à avoir des médailles. 19h23, le RMC Sport Show. On est avec Julien Richard, Olivier Giraud. On continue notre page natation et on va accueillir Quentin Rakoto-Malala qui est médaillé de bronze en natation artistique, pardon, le premier Français d'ailleurs médaillé de bronze dans cette discipline. Salut Quentin.
Salut.
Merci d'être avec nous sur RMC. Quentin, tu as 19 ans. Bah déjà, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que c'est que la natation artistique. Explique-nous un petit peu, parce que t'es tout simplement c'est la première fois hein, que les hommes font leur entrée au championnat d'Europe dans cette discipline, c'est ça?
Ouais, c'est ça, en solo. C'est la première fois en solo.
Alors, raconte-nous en quoi ça consiste.
Alors bah du coup la natation artistique c'est un mix de, on va dire, de gym, de danse et de natation un peu. C'est assez varié et mélangé et de base ouais c'est une discipline qui est assez féminine. Elle est pratiquée par beaucoup de filles et là récemment donc en 2015 il y a eu l'entrée des garçons dans l'épreuve du duo mixte au championnat du monde et là du coup cette année il y a eu l'entrée de l'épreuve masculine des solos pour les garçons à laquelle j'ai participé donc ce matin.
Mais alors, ce qui était assez dingue, Quentin, dans cette épreuve, c'est que vous n'étiez que quatre, parce qu'on en est vraiment au tout début hein, de la natation artistique pour les hommes. Comment t'as vécu cette compétition, le fait d'aller chercher une médaille historique, du coup, vu que c'est la première compète. Comment on vit ça, quoi?
Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment une expérience incroyable. C'était mes premiers championnats d'Europe senior. Je sors tout juste de la catégorie junior. Et de vivre ça, c'était vraiment quelque chose de ouf pour moi. Et même, je nageais avec du coup des nageurs que j'admire, notamment le premier, Giorgio, que j'admire vraiment. Et du coup, être à côté de lui sur le podium, c'était vraiment une sensation de fou.
Ouais, on imagine. Alors, t'as 19 ans, Quentin, hein, t'es tout jeune. Est-ce que, alors, la question, forcément, elle se pose, mais est-ce que c'est facile quand on est un garçon de pratiquer la natation artistique? Moi, j'ai lu dans des interviews que tu disais que ça n'avait pas été forcément facile tous les jours. Ouais. Et que tu faisais ça justement pour inciter les petits garçons à se lancer dans ce genre d'aventure.
Ouais, parfois, c'est pas facile, c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'en ai pas. J'en ai parfois souffert et tout, mais franchement, maintenant, je prends que du plaisir. Et ouais, si je fais ça, c'est vraiment parce que j'adore ça. Et que ouais, j'ai l'espoir que notre sport continue d'évoluer et que plus de garçons vont se mettre à la piscine. Et voilà.
Quentin, on est avec Julien Richard, c'est notre spécialiste de natation sur RMC. Est-ce que tu as une question, Julien, pour Quentin, avant de le remercier?
Oui, en fait, c'est un sport qui n'existait pas quasiment pour les hommes, en tout cas dans les compétitions. Alors du coup, comment on en arrive à faire de la natation synchronisée quand on est un garçon, alors qu'il n'y a pas de modèle entre guillemets? Vous n'avez pas de modèle quand tu as commencé ce sport-là pour les hommes?
Ouais, moi c'est ma sœur qui en faisait, et en fait à la base je faisais de la natation course, et j'adorais aller la voir au gala, aux compètes. Et un jour j'ai essayé, j'ai tout de suite accroché, et du coup j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et après oui, j'avais quand même des figures qui en faisaient, mais qui sortaient pas forcément du coup en compétition, notamment Bill May, l'américain, qui c'est une des stars de la synchro masculine, et du coup voilà.
Quentin, merci beaucoup. Quentin Rakoto-Malala, médaillé de bronze en natation artistique. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton sport sur RMC. On espère te retrouver très vite. Hein, t'as 19 ans. On espère t'avoir toutes les semaines dans le RMC Sport Show avec des médailles autour du cou. En tout cas, super compétition qu'on a découvert lors de ces championnats d'Europe. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Julien. Tu nous tiens au courant, hein, bien évidemment, s'il y a d'autres médailles.
C'est juste la France a été disqualifiée sur le relais. Ah. Ils étaient quatrième, ils ont été disqualifiés.
D'accord. Pas de regret.
Prise de relais incorrect visiblement, donc ouais.
Pas de regret pour nos nageurs français. Olivier, on reste ensemble. Il est 19h27, c'est le RMC Sport Show. On a encore plein de choses à voir. On va filer en Allemagne dans quelques secondes parce qu'on a eu des médailles en escalade cette fois. Vous restez avec nous sur RMC.
RMC Sport Show.
Nicolas Paolorsi.
19h29, le RMC Sport Show pendant encore une grosse demi-heure. On est avec Olivier Giraud. On a plein d'événements ce week-end à débriefer, Olive, et notamment les championnats d'Europe d'escalade. On va également revenir sur un triplé français en triathlon, et puis on se projettera sur les championnats d'Europe d'athlétisme. Quelques semaines après les mondiaux, on débarque à 99 athlètes français en Allemagne pour ces championnats d'Europe. On envoie une armada d'athlètes.
Ouais, revue d'effectifs.
Ouais, revue d'effectifs exactement avant les Jeux. On sera avec Romain Barras pour parler de tout ça. À 19h30, c'est l'heure de la Minute Foot.
RMC Sport Show.
La Minute Foot.
Xavier Grimaud est avec nous en direct du stade Francis Leblé. Coup d'envoi de Brest-Marseille à 21h dans 1h30. Salut Xavier.
Salut Nico. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Bon Xavier, on va bien évidemment scruter ce match parce que c'est potentiellement la première d'Alexis Sanchez sous le maillot de l'Olympique de Marseille, et que d'après les dernières tendances au niveau de la compo de l'OM, Igor Tudor ferait une nouvelle fois le choix de mettre Dimitri Payet sur le banc de touche.
Oui, c'est la tendance effectivement, la tendance de la semaine. On attend la composition officielle d'ici un quart d'heure, mais Dimitri Payet devra enchaîner la deuxième journée de Ligue 1 à nouveau sur le banc, comme lors de la première. Pourtant Igor Tudor l'a un petit peu ménagé en disant qu'il avait fait une bonne semaine de travail, mais dans les mises en place de la semaine, nous rapportait Florent Germain, c'est plutôt le même 11 que celui qui a battu Reims 4-1 qui était aligné. À voir comment Payet va le prendre. A priori il est dans un bon état d'esprit, mais c'est vrai que quand il y a un seul match par semaine, on peut imaginer un peu plus de turnover peut-être à suivre. Et puis tu l'as dit, Nico, l'un des événements, c'est quand même peut-être les premiers premières minutes, certainement les premières minutes d'Alexis Sanchez. Eh oui. C'est quand même pas rien, Alexis Sanchez. J'ai essayé de faire le compte, mais je pense qu'on est dans les cinq plus grandes stars qui ont évolué en Ligue 1 au niveau des stars internationales. Évidemment, il y a Messi, il y a Neymar. On peut citer Ibrahimovic, certainement, mais Alexis Sanchez, c'est un joueur incroyable. 623 matchs, 180 buts, 141 passes, 146 sélections avec le Chili. C'est pas rien au niveau international. En tout cas, il est connu internationalement, donc voilà, ce sera un petit événement. Pour la petite histoire, il y a ESPN Amérique Latine qui est venu à Francis Leblay spécialement pour le suivre. Ouais, bah pourquoi enfin.
C'est très joli, Francis Leblay.
C'est très joli. Il fait doux, en tout cas, voilà, pour les conditions. On a perdu 10-12 degrés en 24 heures, donc les conditions seront très bonnes pour cette rencontre et la première d'Alexis Sanchez en Mondiovision. Non, ouais, peut-être pas. Peut-être que tout le monde ne va pas regarder Brest-Marseille quand même, mais voilà.
T'enflamme un peu, mais c'est bien vendu. Merci beaucoup, Xavier. On se retrouve à partir de 20h avec Nicolas Villas dans l'after. Brest-Marseille à 21h. Olive, la première d'Alexis Sanchez. C'est excitant quand même, hein. C'est une superstar. Il a tout gagné avec le Barça.
Franchement, on en parle depuis quelques mois, mais limite depuis plusieurs années. Il fallait une grande star devant à l'Olympique de Marseille pour que ça ressemble vraiment à l'Olympique de Marseille. Je veux dire, il n'y a qu'un seul regret, c'est que j'espère que en tout cas pour les Marseillais, les mésententes entre Tudor et notre ami Dimitri Payet vont s'arrêter, parce que honnêtement, je pense que c'est une doublette qui pourrait vraiment faire la paire, parce que le style de jeu de Payet pourrait convenir à Alexis Sanchez, et je pense que techniquement il pourra apporter énormément dans ce style de jeu avec un mec comme Sanchez devant. Donc on va voir à quelle minute il va rentrer.
Ouais, on va voir. Mais je pense qu'il va avoir du temps de jeu quand même, mais on verra ça tout à l'heure dans l'after avec Nico Villas. Olivre, on en parlait tout à l'heure. On a eu des médailles ce week-end en escalade et en triathlon. Je te propose de revivre ces moments avec nos reporters qui sont sur place en Allemagne.
Manon Illy, c'est la médaille qui est en train de se décider. Super. Arnaud, si elle dépasse les 40 plus, ce sera bon. Elle est déjà à 40. Il faut qu'elle aille valider là. Oh. La prise suivante, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, Manon Illy. Mais sur le mur, elle est comptée 41. C'est bon. Deuxième place pour Manon Illy. Médaille assurée. C'est une médaille de bronze pour la grimpeuse Manon Illy.
Ils vont faire 1-2-3. Les Français, Dorian Coninx vient de déposer devant nous son Gore Lehmann, le Hongrois, alors que Léo Bergère est dans les tout derniers mètres. Il franchit la ligne. Léo Bergère, champion d'Europe de triathlon. Et on va avoir un triplé français avec Pierre Lecor qui va passer maintenant. Pierre Lecor qui rejoint Léo Bergère. Il le montre du doigt. Et oui, Léo Bergère a été plus grand, mais Pierre Lecor a parfaitement réagi. Et Dorian Coninx qui passe à l'instant. 1, 2, 3. Le triathlon européen est totalement bleu, blanc, rouge cet après-midi à Munich. Léo Bergère, sacré champion d'Europe. Pierre Lecor deuxième et Dorian Coninx troisième. Merci messieurs.
La deuxième période du RMC Sport Show.
19h34, on est avec Olivier Giraud encore jusqu'à 20h pour débriefer ce week-end de sport. On sera dans quelques minutes avec Pierre Lecor après cet incroyable triplé français en triathlon, Olive. On va accueillir Morgane Maury, notre reporter en Allemagne, à Munich. Salut Morgane.
Bonjour équipe, bonjour à tous.
Et on accueille Olivier Manon Illy, médaillé de bronze en escalade dans l'épreuve de la difficulté. Salut Manon.
Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous Manon sur l'antenne de RMC. Juste avant de questionner, de travailler Manon Illy, Morgane, on voulait faire un petit bilan avec toi sur les épreuves de bloc et de la difficulté, hein, parce que les épreuves d'escalade continuent à se dérouler en Allemagne, mais on a un premier bilan à faire, hein, au niveau du bloc et de la difficulté.
Oui, 4 épreuves. Les Français étaient présents dans 3 finales sur 4. Ils ne sont pas dans celle de la difficulté masculine qui est en train de se dérouler. Donc présents dans 3 finales et 3 médailles. Oriane Berton, aujourd'hui 17 ans, médaille de bronze sur l'épreuve du bloc. Hier, Sam Avezou, 21 ans, médaille sur la difficulté en argent. Et Manon Illy, qui est notre invité, 28 ans, médaille de bronze dans cette épreuve de la difficulté pour son premier championnat d'Europe.
Manon, premier championnat d'Europe à 28 ans. Tu décroches une médaille. On imagine que t'es ravie.
Je suis hyper, hyper heureuse de cette médaille. C'est un grand moment pour moi. Et comme vous le dites, à 28 ans, c'est presque un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, donc je la savoure bien.
Ouais, c'est jamais trop tard. Olivier, c'est vrai que ces épreuves d'escalade, franchement, on s'est un peu pris de passion avant les Jeux Olympiques à Tokyo, lors des tournois de qualification, parce que c'est ultra spectaculaire à suivre.
c'est très spectaculaire. Moi j'étais un petit peu déçu que en fait ça soit un peu mixé et qu'on ne voit pas les vrais spécialistes aux Jeux Olympiques, mais on est en train d'y remédier. Non, moi les questions que je voulais poser surtout à Marion,
Manon.
et aussi à Morgane, c'est le niveau. On dit que le niveau, depuis que ça devient très médiatique avec les Jeux Olympiques, le niveau entre les nations est en train d'augmenter très fortement. Est-ce que c'est une vérité?
T'as ressenti ça, Manon?
Oui, le niveau il pousse beaucoup derrière, et surtout par les jeunes. Et c'est surtout que l'escalade évolue et du coup le style évolue. Donc les anciens, on a un peu plus du mal parce qu'on doit s'adapter, tandis que les jeunes, ils sont déjà, ils baignent dans ce nouveau style depuis tout petit. Donc c'est dur, hein, mais bon, c'est comme ça. Et tant mieux pour l'escalade si le niveau augmente. C'est super pour notre sport.
Tu parles de nouveau style. Qu'est-ce qui a changé du coup entre ce que toi tu pouvais faire il y a 5, 6, 7 ans et les jeunes qui arrivent sur la scène internationale?
Mais il y a beaucoup de choses. Avant, l'escalade c'était très statique. Ça se rapprochait vraiment de ce qu'on peut vivre sur le rocher en extérieur. Et maintenant, c'est quand même assez dynamique avec des prises qui sont de plus en plus grosses et plus des petites prises. Donc c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus spectaculaire. Il faut s'envoyer dans tous les sens. C'est beaucoup plus dynamique.
Morgane, est-ce que tu as pu, toi, ressentir aussi cet engouement autour de ce sport qu'on apprend à découvrir aussi, l'escalade, hein, même si ça fait maintenant 1-2 ans que c'est médiatisé, c'est quand même assez récent dans le concert international. Est-ce que tu as senti vraiment une effervescence autour de cette discipline?
Oui, mais on le voit lors de l'étape de Coupe du Monde de Chamonix qui avait lieu il y a quelques semaines. La place de Chamonix devant le mur était pleine à craquer. Il y avait des milliers de supporters. Hier, pour les finales de blocs et de difficultés, on a compté 5000 personnes, 25€ d'entrée de ticket. Les spectateurs sont placés en bas du mur, comme devant une scène de concert, par exemple. On est au milieu d'une belle place de Munich aussi, avec des grandes colonnes anciennes, antiques, à côté de ces musées, ces colonnes doriques. Et ça donner une superbe atmosphère avec musique DJ, musique à fond, et les champions, les grimpeurs étaient très heureux de vivre ça sous le grand soleil de Munich hier.
19h38, on est dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud et notre invité Manon Hilly, médaillé de bronze en difficulté, c'est de l'escalade au championnat d'Europe à Munich en Allemagne. Une question, Olivier?
Moi, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que on avait des très bons de très bons athlètes pour les Jeux Olympiques au Japon.
Ouais, de très bons grimpeurs.
C'est l'état de notre équipe de France. Est-ce que l'équipe de France va être compétitive pour les Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris 2024? Je pense que tout le monde aimerait savoir le niveau qu'a notre équipe de France actuellement.
C'est vrai, Manon, ça. À quoi on peut s'attendre à Paris?
Alors, oula, c'est très compliqué. Il y a quand même, je pense, un super niveau en France. Et j'espère que les quotas seront remplis par les Français, parce qu'après ils prennent les 20 meilleurs au monde et après il faut que les Français prennent leur place dans le classement du coup international. Mais je pense qu'on a tout à fait nos chances de remplir nos quotas et j'espère que ça sera le cas.
Manon, quand on
il y a une génération Paris 2024 vraiment qui est en train d'être montée. Nicolas, Olivier, oui. Je vous ai cité Oriane Bertone, 17 ans, Sam Avezou, 21 ans, Mejdi Chal qui a 19 ans, qui a déjà remporté une étape de Coupe du Monde. Là, il y a une très belle génération bleue qui est en train d'arriver.
Manon, on te dit rendez-vous dans 2 ans avec une médaille autour du cou à Paris. Ah, ça serait pas mal.
Ça serait beau.
Ouais, ça serait beau, ouais. On verra bien.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Manon, qui est infirmière aussi à la ville.
Ah, oui.
Qui est infirmière à la ville aussi et qui s'entraîne quand son hôpital peut
c'est
la libérer.
Ça. Oui, ils sont super cool, j'ai beaucoup de chance.
Ouais, t'as de la chance parce que c'est vrai que vous êtes ultra sollicité, surtout,
oui.
Surtout en ce moment. Merci beaucoup Manon
Merci Elie,
médaillée de bronze en difficulté, c'est de l'escalade. Merci également à Morgane Maury hein, qui est en Allemagne pour RMC. Ciao Morgane. Olive, on enchaîne, il est 19h40 sur RMC, on a parlé tout à l'heure de triathlon, c'est Valentin Jamin qui est également à Munich, qui a suivi les épreuves de triathlon. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Bon Valentin, faut que tu reviennes avant qu'on accueille notre invité, hein, Pierre Lecor, qui a terminé deuxième hier sur cette course totalement folle. On entendait tout à l'heure tes commentaires. Triplé français. Alors, Léo Bergère était le grand favori de la course, mais derrière, les Français ont frappé fort. Hein.
Ouais, ils ont été très très forts les Français. Donc victoire de Léo Bergère, deuxième place pour Pierre Lecor et troisième place pour Dorian Coninck. C'est un podium inédit bleu blanc rouge sur ces championnats d'Europe. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est ce que les garçons ont souligné après face aux journalistes, c'est la stratégie qui a été mise en place. On est allé rapidement, on rappelle hein, triathlon, donc natation 1,5 km, puis 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et dès la natation, les trois garçons sont sortis dans le groupe de tête et derrière on a appuyé fort, on a pris des relais sur le vélo pour essayer de distancer les femmes favoris qui avaient perdu du temps à la nage. Et voilà, c'est vraiment cette stratégie d'être à l'avant qui est poussée, qui est travaillée depuis le début de l'Olympiade et qui a été parfaitement réalisée par les garçons. Et derrière, intrinsèquement, ils ont le niveau pour aller faire podium sur les championnats d'Europe. Donc le scénario a été magnifique. On a cru à un moment qu'un Hongrois allait nous empêcher de faire le triplé, mais Dorian Coninx a bien réussi à le semer au sprint. Donc voilà, on a vécu de magnifiques émotions avec les trois garçons. Et donc le premier titre pour Léo Berger, 26 ans, qui est lui un peu la révélation, ouais, deuxième du circuit mondial cette année.
Et puis Valentin, rapidement, hein, nouvelle médaille, hein, nouveau titre pour le triathlon français il y a quelques minutes à peine.
Ouais, semaine assez incroyable. Ils viennent d'être titrés, les Français, en relais mixte. Léo Berger, Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi et Dorian Coninx, champion d'Europe devant l'Allemagne et la Suisse. On avait fait le bronze au JO de Tokyo. On est multiple champion d'Europe, multiple champion du monde. Et donc, à la fin, il y a eu 9 médailles distribuées. On en a raflé 5, plus de 50%.
Le triathlon, Olivier, chance de médaille, hein, à Paris, hein, dans 2 ans au jeu.
Ça fait très longtemps que le triathlon, et ça fait longtemps, là, dernièrement, qu'ils sont au top, tout simplement. On va observer, et c'est vrai qu'il y a un truc qui est hyper sympa à observer, les championnats d'Europe servent à ça, dans tous les sports, c'est de regarder l'évolution, compétition après compétition, oui. Et on peut sentir à peu près, dans certains sports comme le triathlon en particulier, s'il y aura médaille ou pas, et pour l'instant la France continue à tenir son rang, parce que souvent, ton niveau à un an des Jeux, c'est souvent le niveau qu'il y aura aux Jeux.
Ouais, et encore, là on n'avait pas Vincent Louis par exemple, qui est l'étendard un peu, hein, du triathlon français sur ces championnats d'Europe. 19h42, on est dans le RMC Sport Show avec Olivier Giroud, avec Valentin Jamin. Les invités s'enchaînent. On accueille Pierre Lecor, deuxième du triathlon hier dans ce triplé historique, hein, ce triplé français. Salut Pierre, merci d'être avec nous sur RMC.
Oui, bonsoir à tous, salut.
Bon, Valentin nous a raconté cette course. Comment vous l'avez vécu, vous, les gars, hier, quand vous vous rendez compte que vous faites 1, 2 et 3 voilà, comment t'as vécu ça?
Bah, c'est un peu inespéré, hein. On en avait parlé le matin, mais ça n'avait jamais été fait, un triathlon en tous les cas. Et puis on savait qu'on avait tous les mêmes forces, donc on s'est dit, bah, en tous les cas, il faut qu'on tente de s'échapper dès la sortie de la natation. Mais en WTCS, donc c'est les étapes de championnat du monde en triathlon, toujours on essaie de le faire, notamment avec Vincent, mais on n'y arrive jamais, c'est assez compliqué parce que ça revient très fort derrière.
Ouais.
Et là, on a appuyé peut-être un peu plus que d'habitude, et parce qu'on, voilà, on voulait vraiment faire briller la France, et puis bah voilà, on a réussi à conclure cette belle stratégie de la plus belle des manières, on va dire.
À quel moment vous sentez que ça va sentir bon, et que finalement qu'on se retrouve à 3 et après il y a une concurrence entre soi, mais à quel moment vous avez senti que ça pouvait aller au bout?
Bah, dès le départ, en fait, au début du vélo, on le sait, en fait, on le sent quand on fait le trou, on nous annonce déjà les écarts, et voilà, il y a beaucoup de gros coureurs qui étaient piégés derrière, donc nous, on était très bien organisés devant, on a essayé de motiver nos concurrents qui finalement se sont retrouvés à être nos alliés pour la partie vélo. Et puis voilà, on s'est très bien organisé, et là on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Après voilà, il restait quand même des sacrés athlètes à sortir en course à pied, mais je pense que dès le départ en vélo, ouais, on a pu se le dire.
Alors, il y a un truc qui est particulier. Le triathlon, c'est un sport très dur qui est réuni trois sports, mais avec une particularité. Le vélo, où on peut un peu prendre le bon wagon, s'entraider, prendre le vent, faire des relais. Est-ce que le fait que le niveau français soit très très haut, eh ben, augmente encore les chances sur beaucoup de courses?
Ah oui, tu veux dire qu'ils peuvent collaborer ensemble pour aller chercher des résultats. Ben,
d'autres l'ont fait, mais ouais. Est-ce que c'est pas bon pour les médailles françaises, toutes compétitions confondues?
Bah si, c'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis en plus, on a la chance d'avoir quatre garçons au top niveau, avec Vincent Louis notamment, où on a tous les mêmes points forts. Donc en fait, on essaie justement de travailler là-dessus, et mais on n'a jamais vraiment réussi à mettre ça en place avant hier, en fait.
19h45 dans le RMC Sport Show. On est avec Pierre Lecor, deuxième du triathlon au championnat d'Europe en Allemagne, à Munich, avec un triplé français historique. Valentin Jamin a commenté cette course pour nous. Valentin, tu avais une question pour Pierre?
Oui, bonsoir Pierre. Je voulais revenir aussi sur la préparation, puisqu'on a parlé avec le DTN Benjamin Mas, qui nous a dit qu'on avait testé la préparation 2024 pour ces championnats d'Europe 2022. Vous êtes allé à Font-Romeu en altitude. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tout ça, et si tu sens que ça t'a déjà apporté?
Alors oui, on a l'habitude de plus, plusieurs années déjà, nous les garçons, d'aller en altitude. Après, donc c'est pas notre premier stage en altitude, mais c'est vrai que c'est un plus, hein, notamment pour notre type d'épreuves, où c'est des épreuves d'aérobie. Donc effectivement, c'est toujours un plus. Après, il faut pouvoir bien comprendre ce que ça peut impacter sur l'entraînement et puis pas faire de surentraînement non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller régulièrement, tester des choses, et puis quand tout est en place, c'est là que ça marche.
Pierre, merci beaucoup. Pierre Lecor, deuxième du triathlon, hein, médaille d'argent. Léo Bergère a terminé champion d'Europe. Dorian Coninx, troisième. Et puis on espère revivre ce triplé français au jeu, hein, les gars, hein, dans deux ans. Hein, on attend que ça, nous. Hein.
Ah, on attend que ça.
Allez, bonne soirée, Pierre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC. Olivier, il est 19h47. On va partir en pub dans quelques instants. On va se projeter sur les championnats d'Europe athlétisme qui débute demain. 99 athlètes français ont été envoyés à Munich. Vous restez avec nous, on sera avec Romain Barras, notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Nicolas Paolorsi.
Il est 19h49, on est dans le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, qui est dingue de tous les sports, parce que, pour rien vous cacher, on était en train de regarder pendant la pub de la Cesta Punta. C'est la pelote basse, quoi. C'est génial, ça, Olivier. Toi, tu te régales devant ce sport.
Ah, mais moi, j'adore, parce que bon, j'ai vécu un peu dans le Pays Basque, mais c'est surtout en ce moment, il y a les internationaux dans tout le Pays Basque, et il y a les meilleurs joueurs du monde. Et tout simplement, c'est impressionnant.
Ouais,
impressionnant.
C'est vrai que c'est très, très spectaculaire. Et si vous êtes dans le Pays Basque, vraiment, essayez d'aller voir une rencontre de Cesta Punta. C'est vraiment très chouette à vivre. Dans 10 minutes, l'after avec Nico Villas, avec à 21h le match entre Brest et Marseille, la première d'Alexis Sanchez, avec probablement Dimitri Payet une nouvelle fois sur le banc de touche. Mais nous, on termine ce RMC Sport Show en accueillant notre invité.
L'invité du RMC Sport Show.
On reste en Allemagne, Olivier, à Munich, puisque demain débutent les championnats d'Europe d'athlétisme. Aurélien Tiersin, notre reporter envoyé spécial sur place, est avec nous. Salut Aurélien.
Salut Nico, salut Olivier, bonsoir à tous.
Et on accueille Romain Barras, le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme. Bonsoir Romain.
Salut Nicolas, salut Olivier, bonsoir à tous.
Merci d'être salut avec Romain. Nous Romain sur RMC. Déjà première question Romain, 99 athlètes envoyés par la délégation française à Munich, c'est une grande revue d'effectifs, hein, pour ces championnats d'Europe.
Oui, c'est effectivement la volonté qu'on a eue, la stratégie qu'on a mise en place, c'est-à-dire d'avoir une sélection plutôt élargie, avec la possibilité pour de nombreux athlètes de s'aguerrir à un niveau international, je dirais un peu intermédiaire, qui est un peu moins relevé qu'un championnat du monde dans la plupart des épreuves, et ce qui permet d'avoir une première expérience internationale. Et à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, c'était important pour nous de lancer ces athlètes dans le grand bain.
Ouais, et puis Romain, plus beaucoup de temps, hein, plus beaucoup de compétitions jusqu'au JO 2024. Je suppose que vous avez mis quand même un plan pour être prêt en 2024. C'est deux ans de travail, donc on va pas revenir sur le fait que vous ayez fait une grande revue d'effectifs. Ça ressemble à ça, à cette stratégie. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la stratégie pour arriver à vos objectifs, Romain ?
La stratégie, effectivement, hein, au-delà du fait d'avoir élargi la sélection, c'est l'accompagnement de ces athlètes. Et cet accompagnement, c'est le travail des équipes au quotidien, avec la proximité avec les athlètes et les entraîneurs pour ce qui est de la formation et de l'accompagnement au niveau. Et la participation sur ces compétitions internationales en fait partie. Forcément, comme tu le dis, hein, il reste deux ans, c'est hyper court. Néanmoins, on a de l'optimisation à faire. Et dans l'optimisation, eh bien, c'est aguerrir les gens, leur permettre de construire des performances et de régler les petits détails qui vont faire que on passe d'une quatrième, du sixième, du huitième place à un podium ou un titre.
Romain Barras, le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme, est avec nous puisque demain débutent les championnats d'Europe. Romain, on va parler des objectifs de médailles. Alors plus que des objectifs de médailles, mais aux Mondiaux, il y a quelques semaines, on a terminé à égalité avec l'Allemagne devant l'Italie et la Belgique. L'idée sur ces championnats d'Europe, c'est quoi ? C'est de se maintenir à ce niveau-là avec ces pays-là ?
J'aurais beaucoup de mal à me prononcer sur cette question-là. Je regarde pas forcément la concurrence internationale dans le sens où tu en parles. Nous, on va regarder la concurrence internationale pour savoir ce qu'ils font mieux que nous dans l'accompagnement et dans la préparation de leurs athlètes. Comment on peut essayer justement de tirer des enseignements de tout, comme eux le font avec nous, hein, forcément. Et après, la médaille ou le résultat brut du classement des médailles, il est tellement aléatoire. Rappelez-vous à Eugene. Wilfried Apio, il arrive assez loin dans les bilans. Il fait quatrième de sa course à 200e. Donc oui, en même temps, on est très proche d'une médaille, mais en même temps, on n'attendait pas ce garçon à si proche. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. C'est l'aléa du résultat. Nous, notre le fond de notre métier, c'est l'accompagnement, la préparation et de les diriger vers le meilleur résultat possible.
Romain, la question peut être un petit peu compliquée par rapport aux autres pays. Je sais que tu analyses et vous analysez énormément cela. La France a cette particularité, c'est avec la revue d'effectifs, c'est de venir avec beaucoup d'athlètes dans beaucoup de catégories, dans beaucoup de sports. Parce que c'est combien de sports la Fédération d'athlétisme, Romain?
Alors nous effectivement on est une fédération presque c'est multidisciplinaire et presque multisport. Vous comprenez bien que effectivement il y a peut-être plus de différence entre le saut en hauteur et le lancer de poids qu'il y en a entre le basket et le handball. Ouais, et pourtant on est dans la même fédération.
Elle a un sens cette question parce que on voit des pays, vos pays, les pays qui sont concurrents, la force de la France, le fait d'être présent dans toutes les disciplines, et quand on regarde les nations qui sont confrontées à nous, se spécialisent dans certaines disciplines pour être performants. Est-ce que notre qualité n'est pas notre défaut aussi?
On a effectivement peut-être cette volonté d'avoir des formations qui sont multidisciplinaires, pluridisciplinaires pour accompagner tout le monde. Et on a aussi en France cette qualité de l'enseignement du sport en général, je dirais, parce que on a énormément de sports et on va pas se cacher, il y a des sports qui peuvent, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est pour la France, mais voler certains de nos talents. Le handball, le rugby, le basket. Si on n'avait pas des nations aussi performantes dans ces sports-là, peut-être que nous on aurait plus de sauteurs en hauteur, de sauteurs en longueur ou de lanceurs de poids.
C'est pas fou.
Simplement.
C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Romain. Romain Barras, directeur de la haute performance de la Fédération française. Oui, tout le meilleur pour ces championnats d'Europe, parce que tu le disais, Romain, en plus, avant-dernière compétition, avant Paris 2024. Hein, donc, c'est maintenant aussi que les athlètes doivent se montrer performants pour marquer les esprits à 2 ans des Jeux. Merci beaucoup,
merci
Romain. Et à très vite sur l'antenne de RMC. On retourne en Allemagne, Olivier, avec Aurélien Tirsin, qui est à Munich pour suivre ces championnats d'Europe. Aurélien, on va bien sûr revenir sur la présence de Kevin Mayer, notre champion du monde en titre. Bon, il est tranquille hein, sur ces championnats d'Europe. Kevin Mayer, il vient pour le fun. Hein.
Bah oui, déjà c'est inespéré de le voir parce qu'il n'avait jamais enchaîné 2 décathlons dans la même année depuis 2016. Et là, il s'est dit tiens, je suis champion du monde. 3 semaines après, paf, je repars. Bon, il est cuit. Il nous l'a dit. Il est très fatigué de ses efforts. Hein. 8816 points à Eugene, c'est le 3e meilleur total de sa carrière. Donc c'est pas un titre de champion du monde au rabais malgré l'abandon de Damian Warner, le Canadien qui était son plus gros adversaire. Et là, il arrive à Munich comme grandissime favori européen. Derrière, il y a l'Allemand Niklas Kaul notamment ou l'Estonien Maicel Wibo, mais qui sont à 400-500 points d'un Kevin Mayer qui pourrait donc se permettre de lever le pied sur 2-3 épreuves qui peut se rater et qui serait quand même champion d'Europe. D'ailleurs, petite anecdote, petite bizarrerie, Mayer n'a jamais été champion d'Europe dans sa carrière. Donc il arrive avec une saison réussie pour le plaisir puisque la pression n'est plus sur ses épaules. On l'écoute.
Bah déjà il y a beaucoup moins de pression, ma saison est réussie, j'ai médaille d'or au championnat du monde, je suis champion du monde, donc j'y ai laissé beaucoup de plumes. 3 semaines c'est très peu pour un décathlon de récupérer, mais les challenges me plaisent, c'est un énorme challenge. Après c'est sûr que la réussite de ce projet, ça va surtout être de ressortir de ce décathlon sans blessure, donc si à un moment donné je dois stopper, j'écouterai beaucoup plus mon corps que d'habitude, ça c'est sûr et certain.
Kevin Mayer à ton micro, Aurélien. Important quand même hein, pour Mayer de remporter son premier titre européen quand on a un super
champion. Je suis pas sûr.
Ouais, non.
Je suis pas sûr pour lui. Je pense que c'est aussi tenir les engagements avec l'équipe nationale. C'est important pour l'équipe nationale que le meilleur français actuellement soit présent. Et puis ça permet aussi de faire une tournée, d'être présent, de continuer à s'entraîner parce que la compétition reste aussi une forme d'entraînement. Quand il part décontracté comme ça, il y a toutes les chances, tu sais comment il commence dans ses concours. Ouais. Hein. Il est jamais content et puis au fur et à mesure,
la banane qui revient, et puis
il fume tout le monde et il gagne. Donc ça peut être intéressant de suivre. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y soit.
Aurélien, les rendez-vous pour la suite de la compétition qui démarre demain.
Alors, on a donc le décathlon, évidemment, à partir de 10h du matin, Kevin Mayer, le 100 mètres. Ça enchaînera avec notamment la qualif de la perche féminine, avec Ninon Chapelle, Margot Chevrier et Marie-Julie Bonin. Margot Chevrier, notamment, qui est troisième au bilan européen. Donc, c'est une des chances de médaille.
Ah, on a perdu Aurélien Tiersin, la liaison est mauvaise avec Munich en Allemagne. Il y a des chances de médaille dès mercredi, en tout cas le 110 mètres haies avec Pascal Martino Lagarde et Sacha Zoya, le grand espoir, hein, le hurdleur français qui s'alignera sur 110 mètres haies. Il est 19h58. Olive, merci beaucoup. Bonne soirée.
Bah toi aussi.
C'était un week-end chargé, hein.
Ouais. Chargé.
On a fait vite, hein, pour parler de tous les sports.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas terminé, puisque l'after démarre dans quelques secondes avec Kevin Diaz, avec Coach Courbis, avec Nico Villas à 21h. Brest-Marseille avec peut-être la première d'Alexis Sanchez. Bye bye. RMC Sport Show.